savoir comment lutter contre la déforestation et mettre en place des stratégies de développement et de conservation durable. C'est le thème qui a été au centre du sommet des trois bassins forestiers tropicaux qui s'est tenu à Brazzaville en République du Congo du 26 au 28 octobre 2023. Objectif de cette rencontre, aspirer à une meilleure collaboration entre les pays forestiers, mais aussi afficher une volonté d'accélérer la coopération sud-sud tout en développant un front commun dans les cadres des négociations internationales sur les forêts. Dans la déclaration sanctionnant ces travaux des trois jours, les participants dans la RDC, le Gabon, le Congo-Brazzaville ont réaffirmé l'engagement de poser les bases d'une feuille de route pour aller vers la construction d'un cadre commun de coopération entre les trois bassins amazoniens du Congo et du Bornéo-Mékong. Cependant, durant le sommet, Félix Tshisekedi, président de la RDC, dans le pays, couvre à lui seul environ 62% des forêts du bassin du Congo, a déploré la destruction des écosystèmes par un pays voisin. Quelle lecture faites-vous de la rencontre des Brazzaville pour lutter contre la déforestation? Nous en parlons ce soir dans cette émission avec Tipe Ombi Biela Bilingi, voilà, conseiller en charge de reboisement, horticulture, protection des forêts et tourbières au ministère de l'Environnement et du Développement Durable. Monsieur Tipovi, bonsoir.
Bonsoir, madame.
Patrick Saïdi, qui va nous rejoindre dans un tout petit moment, il est coordonnateur de la dynamique des groupes des peuples autochtones, pygmées autochtones. Comme je l'ai dit, il va nous rejoindre dans un tout petit moment. Avec nous dans ce studio, Guy Kajemba, il est coordonnateur national du groupe de travail Climat Red Rénové. C'est un réseau national avec 500 ONG et réseaux présents dans 19 provinces de la RDC. Monsieur Guy Kajemba, bonsoir.
Bonsoir, madame.
À Kinshasa, vous nous suivez sur la 103.5. Et si vous êtes à l'étranger, merci de nous rejoindre sur www.radioocapi.net, sur Canal Plus, Channel 572, sur DSTV, Canal 867. Vous avez aussi la possibilité de nous suivre en live sur la page Facebook et la chaîne YouTube de Radio Okapi. Bienvenue à tous dans votre magazine.
Vous pouvez continuer à envoyer vos réactions à tech@radiookapi.net.
La RDC appelle à une stratégie commune sur le rôle central des pays des trois bassins forestiers tropicaux. C'est le président Félix Tshisekedi qui l'a dit samedi 28 octobre à Kintele, à Brazzaville, au sommet des trois bassins du Congo, de l'Amazonie et du Bornéo-Mékong. Par ailleurs, il a rappelé que l'agression dans la RDC victime de la part du Rwanda par le M23 contribue aussi à détruire la biodiversité importante du parc des Virunga. Le chef de l'État, Félix Tshisekedi, co-organisateur de ce sommet, a souligné le rôle majeur qu'ambition de jouer la RDC par son potentiel environnemental, agricole et minier. On écoute Félix Tshisekedi dans ses propos recueillis par Alain Irung.
Ce sommet vient à point nommé en ce qu'il nous permet de réfléchir à quelques semaines de la tenue de la 28e conférence des parties à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, prévue très bientôt aux Émirats Unis, de réfléchir sur des perspectives concrètes en vue de l'application effective de l'accord de Paris sur le climat, mais avant tout d'entrevoir la possibilité d'une stratégie commune visant à ressortir le rôle central joué par nos États dans la lutte contre les changements climatiques. En effet, bien que la grande messe sur le climat approche à grands pas, ce sommet, appelé communément de nos voeux, constitue en une opportunité, en même temps qu'en un défi inouï, au vu de cette caractéristique que nous avons en partage, celle d'abriter sur nos territoires respectifs les trois plus grands massifs forestiers tropicaux de notre planète.
C'était là le président Félix Tshisekedi de la RDC Tipe Ombi. Je rappelle que vous êtes conseiller en charge de reboisement, horticulture, protection des forêts et tourbières au ministère de l'Environnement et du Développement Durable. La RDC appelle à une stratégie commune sur le rôle central des pays des trois bassins forestiers tropicaux. C'était en marge du sommet qui s'est tenu du 26 au 28 octobre dernier à Brazzaville, en République du Congo. Qu'est-ce que cela veut dire concrètement, cet appel de la RDC?
Ok, merci beaucoup pour la parole et d'abord pour l'invitation. J'interviens ici au nom de son excellence, Madame la ministre d'État, ministre de l'Environnement et Développement Durable. Aujourd'hui, il faut savoir que, comme le chef de l'État l'a si bien dit lors de ces sommets, que la RDC reconnaît son rôle stratégique au sein du bassin du Congo, n'est-ce pas, dans la lutte contre le changement climatique, qui n'est plus à démontrer, effectivement. Le chef de l'État l'a si bien dit et rappelé qu'effectivement, la RDC, en lui seul, couvre un peu plus de 62% du couvert forestier du bassin du Congo. On parle tout simplement des forêts tropicales humides du bassin du Congo. En dedans, on ne parlait pas des forêts des Miombo, par exemple, qui se trouvent au sud, dans les Katanga, les forêts des Mayumbe, les forêts éclaircées, les forêts de l'Est, les forêts des mangroves, c'est-à-dire que si on rajoute tout ça, vous allez voir que la RDC c'est un giga pays, non pas seulement de la biodiversité, où sont placés 5e mondial. Le chef d'État a rappelé aussi que la RDC détient en lui seul 52% des réserves d'eau douce d'Afrique, dont 10% des réserves d'eau douce du monde. Aujourd'hui, la RDC s'est prête dans une approche participative, contributive, avec son rôle naturel de leader.
Alors c'est des discours qu'on entend très souvent, mais sur terrain la situation ne change pas trop. Est-ce que il faut continuer à croire en ces discours où c'est juste un chapelet des bonnes intentions, mais qui ne va pas se concrétiser?
Ne vous en faites pas, madame. Nous sommes bien la République démocratique du Congo, qui est différente de la République du Congo, du Gabon et autres pays du bassin du Congo. Il faut savoir que la République démocratique du Congo était absente de l'échiquier national et international depuis de longues années. On n'a plus entendu parler de la RDC dans des grands forats, dans des grands forums internationaux. La RDC renaît avec la gouvernance, la vision de son excellence, monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, de faire renaître cette nation. Je vous dis, ce discours est en train de prendre de l'ampleur et aussi à recadrer les choses. La RDC renaît. La RDC reprend sa place. Ce n'est pas une place que nous voulons à qui que ce soit. C'est une place naturelle parce que nous avons hérité de ces pays, de ces gigabiodiversités, de ces forêts de la part de notre Dieu. Maintenant, nous avons la responsabilité à jouer les rôles des leadership au sein du bassin du Congo avec nos pères. Nous ne voulons pas jouer ce leadership nous seuls, mais avec les autres pères du bassin du Congo.
Vous pensez que cette collaboration sera sincère, monsieur Tip Wumbi?
Nous le croyons en tout cas. Le chef de l'État l'a si bien dit. Lorsqu'il a pris son pouvoir, son premier devoir était de parcourir le 9 pays voisins pour conclure avec nos voisins des accords État à État. Je ne reviendrai pas sur ce discours qui était beaucoup plus explicite, n'est-ce pas? Donc les échanges lors du sommet de Brazzaville, cela n'a accouché que d'une déclaration, qui est une déclaration d'intention. Je rappelle ici que le sommet de Brazzaville, c'est le deuxième sommet. Le premier sommet a eu lieu en 2011.
On n'a pas eu de suite.
Cela a accouché d'une déclaration qui était un tout petit peu contraignante, mais depuis 2011, il n'y a plus rien. Rien ne s'est passé, effectivement.
Et qu'est-ce qui dit qu'après ce sommet de Brazzaville, les choses, il y aura du concret?
Je parle bien ici pour le sommet de Brazzaville du 26 au 28. Cela a accouché d'une déclaration d'intention. C'est-à-dire que les pays du bassin du Congo et des trois bassins tropicaux se mettent d'accord dans la collaboration en ce qui concerne la gouvernance forestière, la collaboration pour mettre en place une feuille de route. C'est un mécanisme. On ne peut pas réunir en un seul sommet comme ça les trois bassins et définir une feuille de route. Je voudrais vous rappeler ici avec un seul de nos auditeurs que le bassin, par exemple, de l'Amazonie, c'est construit depuis des décennies. Il y a tout un traité qui régule, qui fluidifie effectivement la coopération et la gouvernance au sein du bassin de l'Amazonie. Ils sont bien structurés. Mais les bassins du Congo ou les bassins du Bornéo-Mekong ne sont pas structurés. Nous devons, chacun de nous, comme l'a dit aussi le président Lula, nous devons repartir dans nos bassins respectifs afin que l'organisation se structure autour d'un leader. Aujourd'hui, le leadership au sein du bassin de l'Amazonie s'est construit autour du Brésil, qui a un couvert forestier plus important. c'est tout à fait naturel aussi qu'au bassin du Congo, qui est la gouvernance, qui est la leadership, se construit autour de la République démocratique du Congo, qui est un peu plus de 62% de ses couverts forestiers. Et la même chose aussi au niveau du bassin de la Mande.
Entre-temps, Congo-Brazzaville aussi voudrait prendre le leadership.
Non, le leadership, on se le dispute pas. C'est le leadership qui est naturel. Le Congo-Brazzaville est un pays dont, parmi les 6 pays qui composent le bassin du Congo, n'est-ce pas? Mais il a un couvert forestier qui est moins de 15%. Peut-être que j'ai les chiffres, peut-être qu'il est moins de 15% contre les grandes républiques démocratiques du Congo qui est un peu plus de 62%. Nous avons 70% des tourbières, qui est une thématique émergente. Nous allons en parler aujourd'hui, même plus tard. C'est un leadership naturel, on ne se le dispute pas. Donc on devait construire ce leadership à côté d'un géant, la RDC, pour booster les bassins du Congo et booster aussi l'économie de l'Afrique.
Déclaration d'intention, qu'est-ce que vous en pensez, Guy Kajemba? Vous êtes coordonnateur national du groupe de travail Climat Red Rénové. C'est un réseau national avec 500 ONG et réseaux présents dans 19 provinces de la RDC.
Merci beaucoup, madame. Pour nous, c'est... on participe à beaucoup de réunions internationales. Et nous sommes fatigués. Que ce soit la COP, on change toujours de formule. Il y a beaucoup de déclarations d'intention, il y a beaucoup de discours. Mais nous, qui travaillons avec les communautés, on ne voit pas les concrets. Et que donc notre combat ne se limite pas à toutes ces discussions-là. Les gens parlent, on a vu beaucoup de gens parler avec beaucoup de discours très bien. Mais quand on revient sur la mise en œuvre, quand on revient sur les réalités de terrain, il n'y a pas d'effort consenti pour cela. Ça nous inquiète.
Mais qu'est-ce qui pourrait expliquer cela?
C'est l'hypocrisie.
Beaucoup de discours, mais sur terrain...
Je veux te dire une chose. Nous arrivons à Sharm el-Sheikh, conférence des États. On parle de la transition énergétique. Et après, il y a 38 jets privés qui viennent. 38 jets privés. Ils brûlent du carburant. Chaque chef d'État vient avec ce jet privé pour venir parler de la transition énergétique et de la lutte contre de réduire les émissions. Nous sommes à Brazzaville. Nous nous retrouvons, c'est une réunion des 3 bassins. Mais on se retrouve avec un seul bassin du Congo. Lula n'est pas là. C'est un sommet de chefs d'État. Nous, au niveau de la civil, on est content, on a été là, on a trouvé tout ce qu'on peut trouver, nos collaborateurs, nos partenaires, mais ce n'est pas ça. Il faut que les gens soient sincères, qu'elles soient aussi de honneur, que ces chefs d'État-là et que ces pays-là soient sincères dans leurs relations. Lula n'était pas là, le président de l'Indonésie n'était pas là, et on s'est retrouvés entre nous, bassin du Congo. C'était un sommet du bassin du Congo.
Mais le président Lula, il a participé par visioconférence.
Mais ce n'est pas ça.
On aurait bien voulu qu'il soit sur place, parce que ça concernait les 3 bassins.
Oui, pourquoi est-ce que les autres se déplacent? Pourquoi est-ce que nous avons vu à Sharm el-Sheikh 37 jets de chefs d'État se déplacer? Tous pourraient faire la même chose.
Est-ce un message pour dire qu'on n'est pas très intéressé?
C'est un message qu'il n'y a pas de cohésion, qu'il n'y a pas un consensus, et c'est dangereux pour l'avenir. Je pressens. Bon, enfin, j'ai vu des études qui montrent qu'on n'a pas les mêmes intérêts entre nous et le Brésil, parce que nous sommes dans une revendication historique, et le Brésil est dans une revendication future par rapport à ses capacités de détruire des forêts. C'est possible que ce soit un des éléments qui peut faire en sorte qu'on n'est pas encore jusque-là avec la même vision par rapport au bassin des 3 bassins. Et ça nous met en difficulté par rapport à ce que nous revendiquons et ce qu'on a suivi comme discours par rapport aux pays du Nord. Ça nous met en difficulté parce que si on n'a pas un consensus, si on ne peut pas tenir un meeting où on se met ensemble sur ce qu'on va faire, hein, avec la présence vraiment de tous les chefs d'État physiquement, pas de présence de vidéoconférence ou tout ça, parce qu'ils se sont déplacés. On pourrait peut-être s'assurer qu'on peut avoir un jour un discours qui nous permet de peser et de faire valoir notre potentialité forestière.
Donc pour le moment, comme l'a dit M. Tipwembi, c'est une déclaration d'intention. Il ne faudrait pas trop attendre, la RDC ne devrait pas trop attendre de ce sommet de Brazzaville.
Madame, l'accord de Paris, c'est en 2021. En 2017. Cet accord-là nous a tous requinqués parce qu'il fallait produire des contributions des ténèbres nationales. Tous les pays ont travaillé sur ça. On quitte Paris, on va à Glasgow, on fait un autre accord où on signe une autre déclaration. On revient à Sharm el-Sheikh, c'est maintenant le perte de dommage. Finalement, on n'est pas. Et après, il faut se rassurer, c'est-à-dire qu'il y avait, au départ, il y avait un engagement des pays pour 1 milliard de dollars pour le pays du Sud. On ne baille pas ça, on nous revient avec des déclarations, avec d'autres déclarations, avec d'autres histoires nouvelles. Et finalement, on ne s'est pas avancé. Je crois qu'il y a un problème sérieux par rapport à un plaidoyer qu'on doit continuer à faire au niveau de la société civile, au niveau international, pour que les chefs d'État puissent respecter leurs paroles, puissent être cohérents avec eux-mêmes, pour que nous puissions quand même arriver à un moment donné à nous rassurer que ces forêts peuvent être utiles pour réduire la pauvreté. Sinon, ça ne sert à rien de les avoir.
Monsieur Tipombi, un mot sur l'absence des chefs d'État de la forêt amazonienne et même notre forêt, comment ça s'appelle déjà, Bernoulli-Mekong, oui. Est-ce un message? C'était quand même flagrant de ne pas les voir à ce sommet des Brazzaville alors qu'on parlait des trois bassins.
Okay. Merci beaucoup. Je pense que mon co-débatteur l'a si bien dit. Nous sommes bien dans un sommet des trois bassins. Le point le plus fort de ces sommets, c'est la mobilisation. On a vu effectivement que le sommet a mobilisé. La République du Congo a parlé des 4500 participants qui étaient enregistrés. Mais bien malheureusement, c'est vrai que dans la salle, on a vu que le chef d'État africain et du bassin du Congo, le président Lula, les ministres de l'Environnement du Brésil ont intervenu en live. Si vous suivez bien le message du président Lula. Le président Lula a si bien parlé de l'organisation de la fluidité et de la régulation de la gouvernance forestière au sein du bassin de l'Amazonie. Il a si bien dit, effectivement, moi je pense que c'est là où nous devons comprendre les choses. Il faudrait consolider un peu les choses. J'ai dit ici au départ que les bassins d'Amazonie est bien structuré pendant des décennies. Et les bassins du Congo, il n'y a aucune organisation. Nous avons au sein du bassin du Congo ce qu'on appelle la COMIFAC, la Commission des forêts du bassin du Congo. C'est celle-là même qui avait organisé les premiers sommets de Brazzaville en 2011. On voit qu'en 2023, la COMIFAC est absente dans l'organisation.
12 ans après, aucune structure. Le bassin n'est pas bien structuré.
Voilà. Et à côté de cela, il y a ce qu'on appelle la Commission du bassin du Congo. Cette commission-là, même c'est ce qui prête un tout petit peu confusion, cette commission-là qui organise le deuxième sommet de Brazzaville. Or, la République démocratique du Congo n'a pas signé les traités, n'est pas membre de la commission climat du bassin du Congo. D'où l'a si bien dit, il donne la possibilité aux autres bassins, les bassins du Congo, les bassins de Bernoulli-Mekong, de pouvoir s'organiser, c'est ce que tu dis. Il faudrait qu'on consolide cette alliance au sein de nos bassins respectifs avant de pouvoir convoquer la réunion des trois bassins. À ce moment-là, nous aurons une vraie déclaration contraignante avec une feuille de route assortie avec des objectifs vérifiables.
Mais entre-temps, les trois bassins n'ont pas les mêmes intérêts comme l'a dit Guy Kajemba. Comment ça va se passer? Chacun a ses intérêts.
Pour ne pas se répéter, je dis bien ici que le bassin d'Amazonie est bien organisé et structuré. Nous revenons au mois.
Mais vous avez besoin d'une collaboration entre ces trois bassins.
D'abord, au sein du bassin du Congo, d'abord. Nous devons d'abord organiser les choses, structurer les choses au sein du bassin du Congo.
On est d'accord avec vous, monsieur Tip.
Oui.
Oui, allez-y.
Je vous rappelle ici que la COMIFA, qui est la commission de forêt des bassins du Congo, a dans son sein un département qui s'occupe des changements climatiques. Il y a un département qui s'occupe de la biodiversité. Il y a un département qui s'occupe des ressources en eau et des forêts typiquement. Mais à côté de ça, nous avons une commission des bassins, une commission effectivement du climat des bassins du Congo, où on ne voit effectivement pas, par exemple, le rôle du Rwanda, qui n'a même pas un hectare du bassin du Congo. Le rôle du Rwanda dans les bassins du Congo, c'est pour faire effectivement quoi? Quel est le rôle du Royaume du Maroc au sein du bassin du Congo? Ce sont des vrais problèmes qu'il faut poser. Voilà pourquoi nous devons d'abord nous structurer. Au sein du bassin du Congo, une fois qu'on aura une structure, qui ne sera peut-être pas au niveau de la structure du traité de l'Amazonie, et le Bernoulli-Mekong fera aussi pareil, c'est à ce moment-là qu'on peut se retrouver dans les cadres du sommet des trois bassins. J'ai bien vous rappeler, c'est le 14 novembre 2022, la République démocratique du Congo a signé avec le Brésil et l'Indonésie une déclaration de coopération entre les trois leaders de ces trois bassins. Il était prévu normalement au mois d'août que ces trois présidents se retrouvent à Kinshasa.
Mais la rencontre n'a pas eu lieu.
Il y a un conflit d'agenda, je pense que la rencontre aura bel et bien lieu. Donc, Lula nous a retracé, nous a remis dans cette approche-là pour dire que chaque bassin doit se structurer autour d'un leadership. Et le président l'a dit bien, que la RDC veut assumer maintenant son leadership avec ses pairs.
Et c'est le président brésilien qui devait vous rappeler cela. Est-ce que vous aviez besoin qu'on vous rappelle cela?
Je pense que c'est beaucoup plus d'expérience. La RDC le dit depuis très très longtemps. Aujourd'hui, nous avons réalisé notre responsabilité. C'est dans une approche contributive que nous voulons faire gagner tout le monde.
Alors, M. Guita, je vais vous plier réagir.
Oui, je trouve que vous donnez trop de temps à...
Vous avez la parole.
On va se sauter si vite, c'est le temps du gouvernement.
Allez-y, vous avez la parole.
Vous donnez le temps un peu.
On vous donne le temps.
Très bien.
Oui.
Dans l'entretemps, tout ça, ce sont des débats inutiles pour nous. Le changement climatique est en train d'être vécu réellement et sérieusement avec nos populations. Et les gens sont dans des guerres de déplantation, de leadership.
Il y a même un auditeur qui dit qu'on est dans des rencontres, des sommets, des déclarations.
Oui, oui. Jusqu'à quand la forêt est en train de disparaître, madame.
Exactement.
Madame, nous avons des érosions ici, nous avons des gens qui meurent chaque jour, à chaque moment. On en a vu à Calais et tout ça. Et donc, on ne doit pas continuer à chercher à aller. On vit de régler les problèmes de la pauvreté et tout ce qu'il y a comme climat. On est là dans une discussion sur l'architecture mondiale internationale.
Juste pour compléter, il y a même un groupe de chercheurs qui a publié un rapport pour dire qu'il y a 6,6 millions d'hectares de forêt qui ont été perdus dans le monde en 2022.
Ouais.
On a perdu 6,6 millions d'hectares de forêt.
Et par moment, moi, comme je disais qu'on n'a pas les mêmes intérêts, on n'a pas fait les mêmes combats. Nous pensons que nous, comme RDC, nos communautés ont protégé ces forêts. Nous avons un taux de déforestation de 0,3. Le Brésil n'est pas aussi structuré que nous par rapport aux efforts consentis. Nous avons une faible. Nos communautés vivent de manière à ce que ces forêts sont protégées actuellement et que nous ne plantons pas de risques. Ce qui fait que nous, ce que nous pouvons revendiquer, c'est plus, c'est notre apport historique. C'est différent de ce que le Brésil veut faire ou les autres font, où on a en Indonésie les huiles de palme et tout ça. Et que donc, moi, je crois qu'à un moment donné, nous sommes en train de nous diluer dans un débat où on devait se positionner par rapport à ce que nous avons comme acquis, au lieu d'aller se mettre dans un conglomérat, et c'est ce qu'on dit. Pour moi, je ne vois pas ce que le Brazzaville est venu faire dans ce débat. J'en ai encore accepté le Gabon. Le Gabon a découvert plus important, et peut-être le Cameroun aussi, mais à Brazzaville. Et là, on va rentrer dans le débat de leadership des hommes, de politiciens, et ça ne nous avance pas, nous, par rapport à la réalité sur le terrain. Les communautés n'ont pas besoin de ces discussions-là de leadership politique, on a besoin de voir un peu ces forêts être rentables, permettre à ceux qui les conservent puissent vivre décemment, et qu'ils puissent changer de comportement, à ceux qui puissent continuer à procéder les forêts. Donc nous ne pensons pas qu'il faut continuer, je pense qu'il faut agir à tous les strates. C'est vrai que la diplomatie, la pression doit être faite parce que la réalité, elle est là et le monde entier, je suis vivre, Thérèse. Le monde entier subit et va subir cette pression climatique. Et donc, il faut aller dans l'action parce que nous sommes à la 27e COP, madame. 27e COP, on veut aller à combien?
Et la 28e, c'est bientôt, au mois de novembre.
Oui. On veut aller à combien pour arrêter, pour que nous puissions nous assurer qu'on aura moins de 1,5 degrés de plus en 2030 ou 2050. Il faut encore quoi? Encore dialoguer, discuter. On va dans les bassins, on se retrouve, les chefs d'État se retrouvent, c'est la fête, c'est la kermesse, beaucoup de discours et puis on revient. C'est là, ça l'a dit.
Qu'est-ce que vous proposez, Monsieur Guy Kajemba, pour qu'on soit dans le concret?
Dans le concret, c'est l'action, ce sont les actions, ce sont les financements, ce sont les discussions sur qu'est-ce qu'on fait. Nous, si on parle de pertes de dommages, est-ce qu'on peut aller dans le sens de demander au pays de financer les CDN, par exemple? Ça, c'est un CDN qui existe. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas réfléchir sur comment est-ce qu'on peut financer ce CDN-là qui prend en compte l'ensemble de toutes les émissions possibles de la RDC, y a que les tourbières et les restes. Si ce document-là, c'est l'unique document-là, pouvait être pris en charge par tous les partenaires, je pense que c'est déjà, ça peut déjà être un pas pour que le pays puisse avancer. Parlez toujours dans les discours, parce que madame, je suis vraiment très désolé, parce qu'on va aller encore bientôt à Dubaï pour la même chose. Uh-huh. Dubaï, c'est un pays producteur de pétrole.
On risque d'avoir les mêmes discours.
C'est un pays producteur de pétrole, donc on se demande quelle sera la résolution qu'il y aura là-bas. On risque de rentrer comme on est parti, etc. Finalement, on est en train d'avancer.
Monsieur Tipomi, vous avez suivi la société civile. On est fatigué des discours. Les Congolais sont fatigués des discours. Il faut passer à l'action.
Exactement. On est fatigués, même nous aussi, au niveau du gouvernement, nous sommes fatigués. Parce que la communauté internationale, nous sommes à la 27e COP, nous allons à la 28e COP. Il y a des engagements qui ont été pris depuis le début.
Peut-être parce qu'il n'y a pas trop de pression de la part de la RDC. On ne sent pas que vous voulez... On ne sent pas cette volonté de vouloir faire avancer les choses.
Je vous rappelle, madame, ici, pour ne pas se redire, la RDC était morte depuis des années. On était absent de l'échiquier international.
On est revenu.
On a revu la RDC à la COP 26. Nous avons replacé notre pays comme étant pays solution dans les cadres de changement climatique. Nous sommes en train de dérouler cette thèse qui est en train de prendre de l'ampleur. Je vous dis que le résultat,
ça prend de l'ampleur.
Ça prend de l'ampleur parce qu'effectivement, nous voyons cet engouement, parce que hier la RDC n'était plus fréquentable. Avec la diplomatie que le son Islam et le chef de l'État a impulsé, notre pays et commence à redevenir fréquentable. On a des investissements, on a des intentions qui sont données.
Encore des intentions.
Pas seulement.
Je vais vous donner la parole,
parce
monsieur.
Que les déclarations, il n'y en avait pas avant. C'est un pays qui n'était pas fréquentable. On était en train de décourager les investisseurs.
Combien d'investisseurs sont venus?
Je ne saurais pas vous dire, ils sont nombreux. Aujourd'hui, la RDC est en train de plaider pour la diversification des ressources de financement climatique entre le développement des marchés carbone juste et équitable, parce que vous savez, effectivement, aujourd'hui, on ne développe pas tout simplement le marché carbone. La RDC peut vivre de cette manne aussi comme le pétrole, parce que notre couvert forestier ainsi que nos tourbières ont la capacité de séquestration beaucoup plus importante que les forêts d'Amazonie. Si, effectivement, ces marchés et carbone, parce que nous sommes encore dans les marchés volontaires, les marchés européens et autres sont des marchés souverains qui sont fermés. Une fois effectivement que l'abcès sera créé, je vous dis effectivement, ces marchés feront vivre et seront développés.
Un autre débat, la société civile. Histoire de marché carbone, monsieur Tipombi. Guy Kajemba.
Oui, je voudrais vraiment insister sur le fait que il faut pas lier. Ces forêts sont là depuis des millénaires d'années. C'est pas le gouvernement aujourd'hui qui a créé forêt. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est que ce travail, nous avons commencé en 2009. Nous avons défendu la RDC à tous les niveaux pour que nous soyons entendus. Nous avions produit la stratégie nationale, nous avons un plan d'investissement, c'était avant ce gouvernement. Et on n'a rien à faire. Nous, on l'a toujours dit. Parce que toutes les discussions qu'il y a eu au niveau international, et même à Glasgow, c'était de dire on ne finance pas la RDC parce qu'on n'est pas sûr de la gouvernance. Et nous disons, ce n'est pas ça le débat. Et je demande au gouvernement d'éviter ce débat-là parce qu'on n'a rien à faire avec ce que nous faisons. Sinon, on va revenir sur des discussions pour dire quelle est la garantie, il y a des détournements, il y a des ceci. Nous, on a toujours dit, nos forêts, avec ou sans gouvernance, les forêts sont là. Et ils contribuent à la protection de l'humanité. Et que c'est sur cette base-là, ne nous ramenez pas à nous donner des conditions comme on fait avec la FMI et les autres conditions. Là, ça ne marche pas. Et nous, on ne tombera pas dans ce piège-là. Nous continuons à faire ce plaidoyer pour dire qu'il y a des communautés locales qui vivent dans les forêts. Il y a des forêts qui sont là, avec ou sans gouvernance. Parce qu'en fait, même si vous avez des armes, si un peuple autochtone veut brûler la forêt, vous n'allez pas l'empêcher avec la police. Et c'est des gaz qui vont se forer. C'est donc un comportement responsable, spontané, des communautés, et c'est important qu'on puisse tenir compte de ces communautés-là, que de commencer à réfléchir sur qui a amené. Comme je vous dis, ça veut dire que nous avons été le premier pays en Afrique à avoir une stratégie nationale en 2009. Et nous avons évolué partout, que ce soit Washington, on a défendu ça, parce qu'on avait aussi des ennemis qui avaient les mêmes discours pour dire. Quelle est la garantie que vos États nous donnent, les chefs d'État, tout ça, les autres, la démocratie. Et ça, ce débat, nous, comme le changement climatique n'a rien à faire avec ça. Maintenant, les gens qui ont la démocratie en Californie, il y a des incendies. Quel est le lien? Et que donc, nous pensons qu'il faut continuer à mettre les débats au centre des communautés et des gens qui vivent avec les forêts, que de commencer à réfléchir sur les efforts des uns des autres. C'est vrai que l'implication, et nous tenons, et nous sommes très fiers, on l'a dit à Glasgow, que la présence, comme je le disais dans le sommet, des chefs d'État, dans un sommet des chefs d'État est important parce que c'est un message très fort. Et après, mais dans les discussions, il faut revenir. Et je suis très content parce qu'à Brazzaville, que ce soit le chef d'État et les autres, ont compris que ce n'est pas ça le niveau du débat. Le débat va dans le sens de continuer à se rassurer que nous avons des forêts et que ces forêts seront là avec ou sans gouvernance. Et ceux qui veulent, si c'est la France qui est bien, une bonne démocratie, qu'il ait sa forêt. On va voir que... Donc, voyez un peu ce que moi je voulais dire à ce niveau.
Alors, on va prendre aussi les avis des auditeurs qui sont très nombreux à nous suivre en ce moment, que ce soit sur la FM ou sur la page Facebook de Radio Capi. On va se rendre à Bukavu pour écouter cet auditeur, Fikiri Chomba. Ça sera pour vous, Guy Kajemba.
Fikiri Chomba, je vous appelle depuis Bukavu dans la province du Sud-Kivu. La rencontre de Brazzaville, tout comme les rencontres qui ont précédé, ne peuvent rien changer dans la déforestation de nos forêts du bassin du Congo. D'ailleurs, c'est un sommet de trop de mon point de vue. La lutte doit impliquer la population qui vit aux alentours de cette forêt, une population qui vit dans une précarité. La seule activité qui est exercée dans ces milieux, c'est le braconnage. Donc toute décision qu'on prendra en dehors de l'implication de cette population, ça sera un échec. Tout ce que vous faites pour moi, sans moi, vous le faites contre moi, dit-on. Il est temps que cette population puisse bénéficier du fait de vivre aux alentours de cette forêt. Par ailleurs, je voudrais recommander à ce que l'on puisse mettre fin au commerce du bois qui alimente au fait la déforestation de nos forêts.
Il va un peu dans, il aborde un peu dans le même sens que vous, mais qu'est-ce que vous pensez de sa proposition, mettre fin au commerce du bois?
Non, vous savez, c'est le commerce du bois, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est toute la gouvernance autour. Ça doit être, enfin, disons, encadré, ça doit être sécurisé, on doit avoir les suivis, on doit sélectionner, on doit s'assurer. Tout ce que, le commerce du bois, comment est-ce qu'il lui pense qu'on peut avoir un cercueil si on ne coupe pas les bois? On va commencer à enterrer les gens où? Chez nous, là-bas et partout, il y a des portes, des fenêtres, tout ce qu'il y a. Comme... Donc, on ne peut pas. On ne peut pas, mais c'est un problème de comme on avait dit, on a toujours dit que c'est un problème de trouver des alternatives à la déforestation. Il y a des bois qui n'ont rien à faire, qu'on peut planter ou reboiser comme on espère de reboisement ici. Et sur base de ça, on peut continuer à faire ce travail. Maintenant, le commerce international du bois, ça c'est aussi une autre chose qui doit être encadrée, contrôlée et gérée. Et surtout, où on doit éviter tout ce qu'il y a comme corruption, comme on trouve des généraux et des gens, je m'excuse, comme là, des gens qui ont des contrats de forêt, des concessions de forêt, qui sont dans la République ici, de manière impunie. Il y a des concessions qu'on a attribuées de manière illégale aux gens. Et que c'est tout ça des problèmes.
Je crois qu'on avait mis de l'ordre dans ce secteur.
Désolé que ça n'a pas encore...
Le ministre Bazaïba.
Non, nous pensons que nous n'avons pas encore vu la lucidité parce qu'il y a un rapport qui existe, hein, un rapport sur de l'Union européenne, il y a le rapport de l'IGF, on a mis sur place une commission, mais après, nous n'avons pas été associés, on n'a pas compris, parce que nous qui avons initié la plainte. C'est nous qui on a saisi l'IGF, on a saisi le Premier ministre dans le temps, avec Bazaïba. Et après, on n'a pas vu de réponse concrète par rapport à nos propositions, et que donc cette question reste pendante. Et que c'est là où on pense qu'il faut mette du sérieux aussi dans... Et c'est à ce moment-là qu'on doit être sérieux, quand on se retrouve dans une domaine international, on a des problèmes internes qu'on n'a pas réglés, et on revient, on se retrouve en train de parler la même chose. Il y a d'autres qui sont un peu plus organisés, comme même le Brazzaville. Vous sentez qu'il y a un peu de sérieux dans l'organisation et tout ça. Et que chez nous, quand nous revenons, il y a des... il y a des décisions qui ne sont pas concertées, on ne se rassure pas qu'on est ensemble, et après, bon, voyez-vous. Donc c'est tout ça le problème.
On va rester à Bukavu pour prendre cet autre auditeur, ça sera pour vous, type Ombi.
Jean Jado Igilima à partir de Bukavu en province du Sud-Kivu. Nous saluons cette rencontre tenue à Brazzaville ainsi que les stratégies dans le cadre de développement et de conservation durable. Néanmoins, couvrant à lui seul 62% des forêts du bassin du Congo, notre pays, la RDC, devrait présenter plus de garanties dans la discipline de la sauvegarde des écosystèmes. C'est bon pour le président Tshisekedi de déplorer la destruction des écosystèmes par un pays voisin. Mais tant que le ministère de l'Environnement ne pourra pas songer à développer d'autres sources d'énergie, nos forêts seront toujours victimes des paysans qui exploitent des bois pour de simples braises de chauffage, alors que sous d'autres cieux, l'exportation des bois fait de bonnes affaires d'un pays. Notons que les lacs qui vous regorgent beaucoup de gaz butane qui, selon les experts, pourraient faire l'objet d'une catastrophe naturelle. Le pays voisin a déjà commencé à exploiter les siens, mais pour notre côté, rien ne marche. Nous nous demandons ce qu'il faudra pour exploiter ces gaz qui, non seulement l'exploitation pourrait nous éviter les dangers, mais aussi peut nous aider à développer d'autres stratégies pour la sauvegarde des écosystèmes.
Monsieur Bombi.
Merci beaucoup à Monsieur Jean Jado, à partir des Bukavu. C'est vrai que depuis que nous sommes dans ce gouvernement, déjà, ça va faire plus de 3 ans, nous sommes dans une approche de la conservation. Vous savez que lorsque nous sommes arrivés, nous avons trouvé un tout petit peu comme 81 titres des contrats des concessions forestières, des exploitations permanentes ou des concessions forestières de conservation. Nous n'avons octroyé aucun titre pour l'exploitation industrielle du bois. Vous savez que dans les 10 mesures que Mme Bazaïba, ministre de l'Environnement et du Développement durable, a présenté au gouvernement le 9 juillet 2021, dans ces 10 mesures figuraient effectivement les états généraux des forêts qui vont être organisés bientôt et la semaine prochaine, je crois. Et il y avait aussi la commission des révisitations des titres. Cette commission a commencé ses travaux au mois de décembre de l'année dernière. Un rapport préliminaire a été rendu au mois d'avril, n'est-ce pas? Nous sommes en train de finaliser les rapports définitifs pour que nous ayons une revue qui est actualisée. La RDC a droit à cela. Donc, c'est pour dire à Jean Jadot que nous sommes dans une approche de conservation. C'est-à-dire que nos forêts rendent des services écosystémiques inégalés aujourd'hui. Nous avons une notoriété publique aujourd'hui qu'un arbre debout a beaucoup plus de valeur qu'un arbre abattu. C'est vrai qu'on va continuer l'exploitation industrielle du bois d'un côté, mais nous rentrons beaucoup plus dans la conservation en vue de pouvoir lutter contre ces phénomènes de changement climatique. C'est vrai que nous avons un problème de gouvernance forestière. Les 10 mesures que nous clôturons avec les états généraux des forêts à partir du 7 novembre, excusez-moi, vont jeter les bases sur une nouvelle feuille de route sur la gouvernance forestière en RDC. C'est vrai que dans cette approche de la gouvernance forestière, la République démocratique du Congo, le gouvernement de la République, est en train de tailler sur la population locale qui vit dans et de la forêt. Cette population qui est gardienne de la forêt. C'est celle-là, effectivement, auprès de qui nous devons chercher des solutions alternatives.
Justement, ouais. C'est la réaction de l'ingénieur Jean Bolema qui nous suit depuis l'INERA Yangambi, centre de recherche en territoire du Sangui, dans la province de la Tshopo. Il pense que le gouvernement et les investisseurs doivent reconnaître les droits des peuples autochtones gardiens des forêts par la création des activités alternatives. Et John Babangala depuis Kisangani pense que chaque année, les réunions et les sommets se tiennent sur les forêts du monde, particulièrement de la RDC. Mais concrètement, notre forêt de la RDC est détruite chaque jour. La RDC devra redéfinir encore sa politique de gouvernance de son bassin tropical, mais également des aires protégées, mais son application des politiques des préservations et des reboisements.
Oui, j'aimerais vous dire aussi ça, peut-être mon co-débatteur de mes contrées ne dira pas. Les bases sur lesquelles la gouvernance forestière doit être établie sont là. Nous avons la loi qui porte code forestier, c'est vrai qu'il date, mais il doit être révisé. Nous avons la loi 011 qui a été révisée aussi sur la portant principe fondamental de la protection de l'environnement. Moi, je pense que le plus grand problème qu'ont nos communautés aujourd'hui, c'est un problème de renforcement des capacités. Je vous dis, par exemple, lorsque nous avons un investisseur qui veut effectivement exploiter une forêt, que ce soit en exploitation forestière, qui n'existait pas depuis que nous sommes là, ou en conservation, il y a toute une procédure à respecter, n'est-ce pas ? Il y a les clips, et il y a aussi les clauses des cahiers des charges. Donc il faudrait à ce niveau-là que nos communautés soient skillées, soient renforcées en capacité, à telle enseigne que l'accompagnement dans la signature de clauses sociales soit le plus plausible possible. Parce qu'on se rend compte, effectivement, on a trouvé des investisseurs qui travaillent dans l'exploitation du bois, qui ne respectent pas du tout, effectivement, leur engagement vis-à-vis des communautés. Vous savez, et pour ne pas se dire, il y a beaucoup plus de problèmes de renforcement des capacités. Nous sommes en train d'y travailler. Et toutes les concessions, par exemple, qui sont octroyées depuis que nous sommes là, des conservations, pas des exploitations de bois, nous avons suivi la procédure, on a accompagné les investisseurs dans la signature de clauses sociales, et nous sommes en train de voir réellement que chaque communauté se retrouve par rapport aux exigences qu'il a posées lors de la signature du cahier des charges.
Une question pour vous, Guy Kajemba, c'est Victor Mbouy depuis la ville de Kikwit. Voilà, une question à M. Guy. Qu'est-ce qu'il propose au gouvernement congolais pour résoudre le problème de déforestation de manière concrète?
Le problème de déforestation en RDC, c'est un problème qu'on peut résoudre si on concentre notre plaidoyer sur la stratégie que nous avions produite, parce que notre stratégie définit clairement le moteur de la déforestation et qu'on peut agir sur ce moteur-là. Ça, c'est la première chose, c'est-à-dire qu'il est possible de résoudre. En amont, il faut que le gouvernement et nous tous les acteurs, nous mettons l'accent sur la mobilisation des moyens et des ressources pour les communautés locales et les peuples autochtones pour arriver à faire ce qu'on appelle le coup d'opportunité, le choix d'alternative. L'opportunité, c'est-à-dire que je ne peux pas couper la forêt si je ne sais pas ce que je veux devenir demain, ce que je veux gagner. Dès lors que j'ai une solution alternative. Et cette solution existe. Et ce travail, nous le faisons. Le problème, c'est que nous ne pouvons pas nous éparpiller dans des grands discours, des grandes réunions, que de mobiliser des ressources avec les partenaires qui sont disponibles pour vous donner des moyens. Et en même temps aussi avec nous-mêmes, parce que ce ne sont pas des aides, comme a toujours dit la ministre d'État. On ne demande pas de l'aide comme traditionnellement. Ce sont des compensations. Donc, c'est là, je pense que le monde entier est conscient. J'ai suivi tous les discours, je le suis tous les jours au niveau international et partout. Tout le monde est conscient que les forêts du bassin du Congo, que les forêts de la RDC contribuent énormément à la lutte contre le changement climatique. Et que si ces forêts sont là, il y a des gens qui sont dedans et qui les ont préservées et protégées. Qu'est-ce qu'on fait de ces personnes-là? C'est ça notre créneau. C'est ça notre créneau. Et nous, donc, pour encore une fois, la déforestation ne peut être évitée que si on travaille sur les différents enjeux qui ont été identifiés dans la stratégie, notamment toutes les réformes qu'on doit finaliser. Je suis très content que ça avance très bien. Maintenant, ici, on a le Conseil consultatif des forêts qui est là, et qui est un cadre démocratique. Bientôt les résultats généraux des forêts, et que dès qu'on aura, on aura déjà une vision par rapport à cela, je crois qu'on pourra avancer dans le contexte. Évidemment aussi, parce que quand on parle de ça, on parle de bois énergie, c'est lié. Ce n'est pas une histoire du ministère de l'Environnement uniquement pour la déforestation. Nous avons les barrages d'Inga, les fameux, on en parle tous les jours. s'il faut fonctionner à ne plus qu'à 50%, nous aurions résolu un grand problème par rapport à la question de déforestation. Et que donc, il y a un travail à faire au niveau de la gouvernance elle-même pour qu'elle prenne conscience que les potentiels sont là. Ce n'est pas aller demander tout l'argent. Ce n'est pas toujours aller circuler pour demander qu'on puisse aider. Nous avons le barrage, nous avons tout ce qu'il y a comme minéraux. Et tout ça, c'est le lithium et tout ça qui peuvent être des alternatives, qui peuvent aider à ce qu'on puisse régler les problèmes. Mais alors, nous avons des soucis par rapport à tout ça, parce que ça, le pays est tel qu'il est, la pauvreté continue, et les gens trouvent des solutions en allant chercher le macala et vendre le macala, parce qu'il n'y a pas d'autre solution.
Je l'ai annoncé dans mon introduction, Patrick Saïdi, coordonnateur de la dynamique des groupes des peuples autochtones, pygmées autochtones, qui devait être avec nous dans cette émission. Malheureusement, sa ligne téléphonique n'y passe pas. On a du mal à le joindre. Nous sommes presque à la fin de notre émission, mais on va écouter ce dernier auditeur qui insiste quand même, Patrick Mbouli, qui appelle depuis Colosi. On va l'écouter et puis je vais vous donner la parole pour conclure.
C'est Patrick Mbouli Kassama depuis Colosi dans la province du Lualaba. C'est une énième ribambelle de théories et de propositions que l'Afrique fait montre à travers ses fils. Et pour lutter contre la déforestation en Afrique, les solutions sont bien connues. C'est notamment résoudre le problème social de base de ceux qui vivent en coupant les arbres. Car s'ils ont d'autres sources de revenus, ils ne vont plus couper les arbres. Avec les taux de chômage très élevés dans nos pays, c'est vraiment difficile de résoudre la déforestation. Car même dans de grandes villes, l'activité de couper les arbres paye bien.
Monsieur Tipoumbi, conseiller en charge des reboisements, horticulture, protection des forêts et tourbières au ministère de l'Environnement et du Développement Durable.
Merci beaucoup. Il a si bien dit, Patrick Mbouli, à partir de Colosi. C'est vrai, c'est ce qu'ils sont en train de débattre ici. S'il n'y a pas de solution alternative pour ces peuples qui vivent dans la forêt, pour qu'ils ne puissent pas faire la pression sur la forêt, c'est vrai qu'on va subir ces problèmes de déforestation. Il est dans une province minière, qui est le Lualaba. Il y a beaucoup d'entreprises minières qui polluent encore l'environnement. Vous savez que son excellence a fait beaucoup de voyages en Colosi. Vous avez suivi qu'il a son premier voyage en Colosi en 2021. Il avait fermé plusieurs entreprises minières qui étaient effectivement en train de détruire complètement l'environnement. Vous savez que ces problèmes d'environnement, le ministère de l'Environnement et Développement Durable, c'est un ministère qui est transversal. On ne peut pas résoudre ces problèmes de l'environnement, de la déforestation, en ayant seulement l'œil branché sur le ministère de l'Environnement et Développement Durable. Si le ministère des Mines n'est pas impliqué, le ministère de Développement Durable n'est pas impliqué, le ministère des Plans n'est pas impliqué, l'aménagement du territoire n'est pas impliqué, on n'aura pas à résoudre ces problèmes. Le gouvernement a pris l'option, effectivement, que nous ayons dans chaque ministère, un point focal du ministère de l'Environnement pour effectivement que le verbe sur qu'il. Il y a un problème de renforcement des capacités, il y a un problème d'information, il y a un problème de respect des lois, de la réglementation et tout. C'est un ministère transversal qui implique beaucoup de parties prenantes, on sait qu'on peut la société civile et les peuples autochtones.
Alors, en 30 secondes, pour conclure, après ce sommet de Brazzaville, qu'est-ce que les Congolais peuvent attendre?
D'abord, le chef de l'État a lancé un appel pour dire que la RDC connaît sa responsabilité et son leadership naturel qui doit construire au sein du bassin du Congo à travers ses pairs. Le leadership de la RDC au sein du bassin du Congo était contestable et est contesté. Nous avons 62% du couvert forestier du bassin du Congo. On a tout ce qui est en rapport avec les ressources en eau, la biodiversité, ainsi que les minéraux stratégiques. Je ne dis pas seulement critiques, des minéraux stratégiques qui sont indispensables et incontournables pour la transition énergétique. Par exemple, nous sommes producteurs de 70% de coltan. On ne peut rien faire dans ces mondes, dans les domaines des dérèglements climatiques, sans la RDC. Soit on fait avec la RDC, on gagne ensemble, soit sans la RDC, on perd, mais notre pays va continuer. Nos forêts, nos écosystèmes vont continuer à rendre les services écosystémiques, quand même que les autres ne seront pas avec nous.
Merci, Tipoumbi Guy Kajemba, coordonnateur national du groupe de travail Climat Red Rénové. C'est un réseau national avec 500 ONG et réseaux présents dans 19 provinces de la RDC. Votre conclusion?
Ma conclusion, c'est que Nous, les Congolais, on est fort dans le discours. On parle très bien, on est applaudi partout, depuis les Nations Unies, partout. Moi, je crois qu'il faut à un moment donné passer à des actions. Je crois que nous serons à la COP 28, pas pour aller encore parler, pleurnicher, crier, mais c'est pour aller demander qu'on puisse agir. Nous avons besoin des actions. Et les actions, c'est la prise en compte ou une décision claire pour mettre le moyen à la disposition des communautés locales pour qu'ils puissent continuer à préserver ces forêts. Si on tient à ce qu'on ait d'ici 2030, ne fût-ce que moins de 1,5% de température. Sinon, c'est la catastrophe. On les vit déjà partout. Partout, partout.
Merci.
Merci.
Merci Guy Kajemba. Dialogue entre Congolais, c'est fini pour ce soir. Merci à Guy Maté, Duna Madimba, Jonathan Fuanani, Clément Chimanga, Hervé Voka, Jean-Claude Siala et Pierre Diassinois qui m'ont accompagné dans la préparation et la présentation de ce magazine. Au micro, Kéline Couté, bonne suite de programme sur la fréquence de la paix.